69e édition de Tatapoum sur Cause Commune 93.1. Tatapoum, une émission où on s'écharpe gentiment et dans la bonne humeur sur des musiques qui font du bruit. Alors ce soir, pour disséquer les disques, on est en compagnie de Guillaume, Mathieu, Nina, Arnaud, Marion et Bibi, et une absente de Marc, Héloïse et sa bienveillance qui avait non pas piscine mais roller derby aujourd'hui. Et on compte donc sur les deux tontons ronchonchons de l'émission pour mettre un peu d'eau dans leur bière pour compenser cette absence.
Sûrement pas.
Alors ce soir, comme à l'accoutumée, Tatapoum vous propose de voyager, mais en posant ses rames sur des rives inexplorées aujourd'hui, puisqu'on ira à Pékin, de Pékin à Bogota, en passant par Philadelphie et Cleveland. Et oui, ce soir, on va discuter des albums de Xia Wang, Dark Thoughts, Nowo et Unidad Ideológica. Alors on débute donc avec ce groupe qui nous vient de Pékin. Alors non, c'est pas la chorale de campagne de Sofia Shikiru, mais bien Xia Wang, qui a sorti l'album Kacha Kacha, un album qui date un peu, 2024, mais on souhaitait parler de la scène chinoise, et c'est Mathieu qui nous a choisi un premier titre, Sonic Baby. C'était Xia Wang. Mathieu, tu nous en dis un peu plus sur le groupe ?
Oui, alors en fait, cet album Katcha Katcha, qui signifie craquement, petit crack, qui fait 10 titres pour une grosse demi-heure, allez, 34-35 minutes. C'est le premier album donc d'un groupe chinois de punk kawaiicore. Alors ça, c'est effectivement, on n'a jamais passé de kawaiicore dans Tatapoum, donc qui est basé à Pékin, Beijing, et qui cet album est sorti puisque c'était en 2024 sur le label anglais Damnably. Donc cet album date de juin 2024 et il s'agit du premier album donc d'un groupe féminin qui existe depuis 2017 et qui mélange pas mal de choses. En termes de référence, les musiciennes, elles citent Bikini Kill, mais aussi Rage Against the Machine, Afriampo ou Beat Happening, et on se retrouve d'un titre à l'autre transporter du punk à un chant limite crust, comme vous avez pu l'entendre, ou à de la pop un peu bizarroïde. Donc ce groupe, il est féministe, il est revendiqué comme tel, et les quatre membres sont capables de calmer le jeu, puisque sur un morceau comme The Other Side of the Bridge, ça démarre très très doucement, la pop très légère, mais l'auditeur n'est pas perdu puisque dans le même titre, on se retrouve avec une décharge d'énergie qui surgit. Et c'est vrai que les musiciennes font un peu ce qu'elles veulent puisque de temps en temps, elles rajoutent à leurs morceaux du violon ou du tambourin, ce qu'on entend aussi assez peu dans Tatapoum. Jusqu'alors, en fait, on avait le sentiment que le punk en Chine était réservé à des musiciens et qu'il n'y avait pas beaucoup de la scène n'était pas vraiment féminisée. Donc Xiao Wang montre que c'est plus le cas. Et il faut savoir que le groupe avait poussé les choses assez loin puisque les musiciennes ont monté un lieu féministe LGBT. Avec des concerts réservés à la scène, et donc elles sont un peu un exemple. Et elles bousculent les habitudes macho de la scène chinoise. Pour moi, c'est un excellent premier album qui est foutraque, mais qui est très réussi.
Arnaud, tu partages cet avis?
Ouais, totalement. Moi, j'étais assez excité en fait de l'écouter. C'est con, mais écouter un groupe de punk chinois, je pense que pour tout le monde, là, c'était une première. Donc, j'étais vraiment tout émoustillé à l'idée de jeter mes oreilles dessus. En plus, assez vite, on voit en effet que c'est un groupe féminin qui s'autoproduit. C'est un vrai petit miracle chinois qui arrive jusqu'à nous. C'est riche, c'est brut, c'est engagé, c'est percutant. Les voix chanter, parler, hurler. Pour moi, ça marche vraiment du début à la fin. Je trouve quand même qu'on sent une urgence vitale de s'exprimer, de scander leurs textes et la sincérité, je trouve, transpire dans chacun de leurs morceaux. C'est une vraie bouffée d'oxygène pur. Ça change quand même de la Kaamelott qu'on a l'habitude de recevoir de la Chine dans nos produits. C'est pas évident pour eux, je pense, de digérer autant de styles. Mais je sais pas quelle est l'histoire du rock en Chine. J'ai peut-être comme a priori de me dire que ça infuse pas depuis très longtemps la culture. En tout cas, elles réussissent à amalgamer du punk, de la noise, de l'indie pop, du metal. On saute de plusieurs styles dans les morceaux en permanence. C'est pas du tout une contrefaçon. C'est vraiment fait avec un réel talent. C'est le style de groupe qu'on a envie, je pense, de refiler à nos potes en se disant qu'on a trouvé une putain de découverte et qu'on a envie qu'il soit distribué en France parce que pour le coup, pour le trouver en France, c'est assez compliqué. Il est en achat, en import sur des plateformes anglaises ou allemandes. Mais en tout cas, en France, moi, je l'ai pas vu distribué. Il y a un morceau moi que j'adore, c'est le morceau Sleep qui est l'avant-dernier et qui est totalement en contre-courant du reste. Et c'est un morceau moi que je me suis écouté plusieurs fois le matin et qui donne une patate quand on se lève. Non, vraiment c'est un excellent album du début à la fin. Là, on a écouté un morceau avec un peu de métal, en effet un peu d'indie pop, mais on saute de chacun des morceaux avec une découverte musicale, des petits arrangements qui rendent toujours les morceaux assez pétillants, et ça dure comme ça jusqu'au bout, en fait, jusqu'au dernier morceau. On se lasse pas de l'écouter. Moi, j'ai dû l'écouter 4-5 fois. Je l'ai fait écouter à mon fils, à ma compagne, et ils ont aussi trouvé ça plutôt percutant.
Guillaume?
Bah, j'ai un avis un peu de... J'ai essayé de modérer un peu votre enthousiasme, bah oui. Forcément.
C'est bon.
Ah, parce que pour moi, en fait, les morceaux sont assez inégaux de l'un à l'autre, hein, dans l'ensemble. J'ai même trouvé l'album plutôt moyen, mais il existe des morceaux réussis, vraiment réussis. Le premier, là, qu'on vient d'entendre, Sonic Baby, bah, tout à fait séduit. Et sur beaucoup d'entre eux, effectivement, il y a une sorte de Chinese de touch qui produit son effet par sa singularité, non pas technique parce que le niveau affiché n'est pas non plus extraordinaire, mais si, non mais. Ça s'entend que c'est pas des enfin bon bref.
Non mais
je suis d'accord. C'est pas terrible au niveau technique, je suis désolé, mais c'est le constat que je fais. Cependant, il y a quand même une constante recherche d'effets divers, et ça, c'est un vrai plus. À commencer par les différents niveaux qui sont faits de l'intonation vocale, qui oscille entre le guttural et le mièvre, auquel la langue chinoise apporte encore plus d'originalité. C'est aussi, bien sûr, surprenant de notre point de vue. C'est ce qui est le plus frappant à mes yeux, et ce qui retient sans doute aussi l'attention pour ce disque, le changement constant de style d'un morceau à l'autre, hein. On peut passer du punk à la berceuse, de la pop au post-punk, les sauts d'un style à l'autre sont constants et ne cessent de surprendre car ils interviennent de façon incongrue, quoique toujours dans la mesure, et là il n'y a rien d'excessif en fait dans ce qu'ils font. Une sorte de pondération polie unit le contenu des compositions. L'ensemble se révèle au final pas si dramatique, mais je ne le réécouterai sans doute pas. Mais c'est certainement une bonne approche pour celles qui souhaitent se pencher sur la scène rock locale chinoise actuelle, indéniablement.
Pas si dramatique, c'est déjà très haut dans l'échelle d'évaluation de Guillaume. Et toi, Nina?
Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool pour un premier album. Le groupe est plutôt prometteur et je trouve un très bon sens de l'équilibre. C'est juste assez pop, juste assez punk, juste assez doux, juste assez violent. Bref, les musiciennes de Xiao Wang explorent différentes énergies, différents styles, sans en faire trop. Et du coup, bah, le résultat est au rendez-vous. Les morceaux varient inlassablement entre mélodies accrocheuses et screamo, et d'ailleurs le screamo c'est pas trop mon truc et pourtant elles ont réussi à me faire kiffer sur ces passages, donc je salue la performance. En plus de ça, c'est trop bien de découvrir un groupe qui ne soit ni européen, ni états-unien, ni australien, qui en plus soit composé de meufs, et de meufs militantes, sur les traces des Riot Girls des années 90, dont la chanteuse du groupe revendique l'héritage, Xiao Wang impose sa voix et la présence des femmes et minorités de genre sur une scène punk pékinoise principalement masculine et misogyne, selon les mots de la chanteuse. Être une femme qui fait de la musique, c'est toujours un sujet politique et on ne peut que saluer le travail de ces femmes qui, en s'imposant sur la scène quoi qu'il en coûte, ouvrent la voie pour plus d'inclusivité en musique.
Et oui, et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de la scène punk chinoise, on peut conseiller le livre de Nathanael Amar, Scream for Life, l'invention d'une contre-culture punk en Chine populaire, qui est paru en 2022, ou son article Benjin Calling, qui est très bien, qui résume un peu la situation. Notamment, il insiste sur le fait que tout ça est un peu apparu dans les années 90, quand il y a eu tout un marché du disque en Chine. C'était des disques qui étaient censés être récupérés pour être réutilisés, qui étaient un petit peu grattés, des CD, mais on pouvait encore écouter certains titres dessus. Et tout ça s'est vendu sur du marché noir, et donc ça a fait connaître un panorama musical plus large. Alors se sont développés un peu des lieux dans des bars, mais aussi dans des restos, dans des caves, etc. de concerts. Bon, il y a une grosse répression quand même, hein, une grosse censure sur les paroles, des interdictions de bars. La censure s'est accentuée avec le Covid, notamment il y a eu des fermetures. Enfin, il y avait un festival punk à Pékin qui existait. Bon, il y a les lieux dont tu as parlé, Mathieu, donc ça bouge. Et puis, il y a des stratégies, des tactiques aussi de résistance. Par exemple, ils font des livrets avec des fausses paroles pour ne pas indiquer les paroles, chantent en anglais, remplacent des mots, le mot fuck par funk, des choses comme ça. Bon, bref, ils cessent de se débrouiller, mais il y a quand même des groupes aussi qui critiquent très sérieusement le pouvoir en place. Et de manière très directe, des groupes Anar, notamment de Pékin. Bref, toute une scène à découvrir. Et donc, on va entendre le deuxième titre de Xian Wang que Mathieu nous a choisi, Duck Song.
<t'en>
C'était Xia Wang. Alors Bibi nous a signalé que vous pouvez réécouter dans les archives de Constroy une interview de Nathanael Amar qui raconte cette histoire du punk en Chine. Alors on passe maintenant à Dark Thoughts avec son nouvel album Highway to the End chez Drunker Sailor Records dont on parle souvent dans cette émission qui est un peu une mine pour nous. Et c'est Nina qui nous a choisi un premier titre, Bubbles Gonna Burst.
Yeah.
alors, c'était Dark Souls, ça pète bien. Et Nina, tu nous le présentes ?
Ouais. Alors, Dark Souls, c'est un trio états-unien originaire de Philadelphie qui a fait son grand retour en 2025 après 6 ans d'absence en sortant leur 4e album, Highway to the End. Alors moi, je connaissais pas du tout Dark Souls, et en voyant le nom sur la liste que tu nous avais envoyée, Cédric, j'étais toute excitée de découvrir ce projet en me disant « Chouette, un nouveau groupe de Darkwave post-punk ». Genre qui est devenu ma came principale, succédant au punk rock garage et au skate punk qui m'ont bercé pendant des années depuis mon adolescence. C'est donc avec surprise, littéralement avec surprise parce que j'ai sursauté aux premiers accords de guitare, que j'ai découvert que Dark Thought était davantage un groupe de skate punk à mi-chemin entre les Ramones et le pop punk des années 2000 qu'un héritier déprimé des Smiths ou des Cure. Donc gros retour en arrière pour moi, Dark Thought me replongeant dans mon péché mignon musical, et puis ça fait toujours plaisir d'écouter des mélodies qui restent dans la tête sur des power chords qui s'enchaînent frénétiquement. Donc en fait, passé ma surprise, j'ai quand même énormément apprécié cet album qui sent bon le skatepark et le pogo. Highway to the End, autrement dit l'autoroute vers la fin, c'est un album qui porte bien son nom puisqu'il s'agit d'un concentré de punk rock énervé au tempo ultra soutenu, où les titres, dont aucun ne dure plus de 2 minutes, se succèdent dans ce disque qui ne dure pas plus de 16 minutes en tout. D'ailleurs, les titres s'enchaînent et se ressemblent, on ne comprend pas tout à fait où ceci commence et où il s'arrête, mais bon, ça marche plutôt bien puisque l'album s'écoute d'une traite sans avoir le temps de se lasser. Personnellement, j'ai bien aimé les titres « Bumble's Gonna Burst » qu'on vient d'entendre et « Sparkling Water » qui me rappellent vraiment l'heure de gloire du pop-punk avec des mélodies qui donnent envie de chanter en chœur, ou encore la pause acoustique « Bienvenue, le temps de reprendre sa respiration » du titre « Please don't be lonesome » qu'on va écouter juste après. Au final, rien de bien original, on a affaire à une recette qu'on connaît depuis plusieurs décennies mais qui fonctionne très bien pour celles et ceux qui se laisseront porter sur cette brève autoroute punk rock. Et pour ce qui est de la Dark Wave, j'ai le sentiment qu'on aura tout le loisir de présenter des groupes du genre plus tard dans l'émission.
Alors Mathieu, le comic de répétition, tu aimes bien, et la musique de répétition aussi ?
Oui. Alors on va dire oui. Moi je suis surpris parce que on va parler de Dark Thoughts alors que Nina elle a parlé des Smiths et moi ça me franchement ça me tue un petit peu mais voilà, c'est juste pour évacuer parce que sinon mon psy va mettre des mois à me soigner. Donc voilà, ce groupe de Philadelphie, je trouve quand même que pour un album qui a été commencé avant le Covid, réussir à faire 11 titres de moins de 2 minutes en 6 ans, je pense qu'ils sont vraiment pas foulés quand même. Alors peut-être que c'est dû au fait que les 3 membres sont dans plusieurs groupes, peut-être que c'est juste des feignasses habituelles. Ce qui est surprenant, c'est que le morceau introductif, je l'ai écouté et je me suis demandé si c'était un groupe français de l'écurie Guérilla. Mais en fait, non. On se rend compte assez rapidement qu'il s'agit tout simplement de jouer du Ramones encore plus vite. Effectivement, tu l'as dit, Nina, c'est un peu 11 fois le même morceau, même si à force on sent des petites différences entre les différents titres. Alors j'ai l'air de me moquer, mais en fait je peux pas nier que j'adore ça parce que ça semble crétin, mais c'est vraiment trop efficace pour résister.
Arnaud, le crétin, t'apprécies?
Ouais, je veux pas, franchement, non, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai été biberonné un peu dans les années 90 au skate punk, donc au bout de 3 secondes d'écoute, on sait ce qu'on va écouter pendant un quart d'heure, quoi. Les morceaux, ils se ressemblent réellement, les 4-5 premiers, moi. On a le temps, hein, ça dure 16 minutes, donc moi je l'ai écouté plusieurs fois, et en effet au bout de la 3e écoute on commence à avoir les petites variations, et il y en a parce que le côté mélodique là qu'on entend déjà dans ce morceau là, parce que c'est un morceau qui est dans la 2e partie de l'album, il est pas très présent quand même sur les 3 premiers, moi je trouve, où c'est pied au plancher pendant 1 minute 30, et en effet on pourrait même presque penser que c'est un seul morceau tant la coupure est rapide entre chacun des morceaux, mais vers le morceau Mike Dreams, le côté mélodique commence à venir. Alors je suis pas forcément fan de la dernière, enfin je sais pas si c'est la dernière, il me semble, ou l'avant-dernière plutôt, morceau guitare au coin du feu, ça fait un peu cliché, mais bon, en ce moment, avec les ricains, tant que c'est pas vulgaire, pas insultant, pas homophobe, pas facho, eh ben on prend. Enfin, hein, franchement, on peut pas demander beaucoup plus à ce style. Et non, c'est un plaisir plutôt régressif. Des petites pépites comme ça, et puis 16 minutes, bon, c'est pas non plus la mort. Ça, on perd pas son temps.
Guillaume, ça se place où dans ton échelle de groupe moyen?
Plutôt au-dessus, largement au-dessus. Enfin voilà, c'est tout le propos. Enfin, je vais pas mais varier beaucoup par rapport à vous. Hein. Ça faisait juste un moment que je n'avais pas écouté ce type d'album de punk à roulette. Hein. C'est un style en soi, caricatural au possible, avec l'imaginaire d'un punk au ras des pâquerettes, rapide et facile, dont les appuyés envolées vocales donnent toute la saveur ou la consternation au genre, selon que l'on l'apprécie ou pas. Une musique à rire ou à pleurer, en quelque sorte, car c'est toujours un peu pareil avec cette musique, et pourtant, elle recèle toujours cette capacité de décervelage imparable. Hein. On a beau l'avoir déjà écouté 50 fois, l'envoûtement opère une fois encore, par une sorte de stimuli pavlovien, l'écoute pousse immanquablement à dandiner de la tête. Il faut dire que les Dark Thoughts savent y faire et peuvent être apparentés à des puristes pour qui ne connaîtraient pas cette musique et voudraient se donner un aperçu de la chose. Tout y est. Pas d'intro, ni d'outro, des morceaux jamais trop longs, tout est joué à fond des ballons, pas de refrain, avec de petits solos de guitare par moment, des textes dont le propos porte le plus souvent sur le sexe et l'alcool, et surtout, la clameur imparable du chanteur pour tenir la cadence et se lancer dans des égosillements vocaux. Sans elle, plus rien n'existerait de cette musique. Et donc c'est voilà, il y a un public pour ce genre de conneries. C'est un peu comme quand on rentre crevé du boulot et qu'on n'a pas envie de se taper la lecture du dernier article de Sandrine Aumercier sur psychanalyse et mathématiques. Et ben on se met un album des Dark Thoughts et on est prêt à oublier les soucis du quotidien sans problème. Voilà.
Bien, très bien, on va s'écouter un deuxième titre de Dark Thoughts qu'a choisi Nina, un titre un peu particulier sur l'album, c'est Please Don't Be Lonesome. Alors c'était Dark Thoughts qui nous emmenait en balade et on va passer à un autre style avec Nosso et leur album Hypnoptique Smack qui nous viennent de Cleveland, hein, une ville très connue qui a notamment vu enfin qui a connu la création de groupes comme Père Ubu, les Dead Boys, Nine Inch Nails, etc. De gratte dans votre vinyle, c'était bien le titre de Nosso Blue. Carno va nous présenter.
Ouais, Nosso, donc tu l'as dit, originaire de Cleveland dans l'Ohio, c'est une charmante petite ville qui est située sur les rives du lac Erie, juste en face de Détroit. Alors qu'est-ce qu'on peut y foutre depuis la fermeture des usines ? Eh ben, on y joue du rock and roll, comme tu l'as rappelé, Cédric, et depuis longtemps. Je cite j'ai fait un peu de recherche sur cette petite ville, enfin cette grosse ville, mais cette ville des États-Unis, et un site Visit USA dit qu'on y fait. C'est une ville qui fait la part belle à la bière, au sport et au rock and roll. Alors ça fait rêver, ça donne envie d'y voyager. Mais revenons donc à ce duo qui a été formé par Nathan Ward à la guitare, basse et au chant, et Jason Gerrits qui est à la batterie. Alors c'est leur troisième long format depuis 2020 avec quelques hippies. C'est jamais forcément si c'est des hippies ou des albums, parce que ils ont sorti quelques hippies avec pas mal de titres. Et Nathan Ward, le chanteur, souffre, semble-t-il, du syndrome TDAH, parce qu'il a sorti trois albums en 2025, puisqu'il fait partie d'autres groupes, les Krullsters et Pervets Again. Alors pas du tout dans le même style, beaucoup plus bourrin, notamment pour le dernier, que j'ai plutôt aimé. J'ai écouté leur dernier album sur Bandcamp. Alors visiblement, donc, on s'ennuie pas à Cleveland. Alors, est-ce qu'ils sont dignes des groupes que tu as cités, Cédric ? En tout cas, la critique et leur label les présentent comme les dignes héritiers de Devo. Et le groupe manque pas de modestie parce que, en tout cas, pour se présenter sur leur Bandcamp, je cite, le monde regorge de groupes punk qui excellent à vous déchaîner, mais Hypnotic Smack est un de ces rares albums punk qui envoûte et captive. Ils ont les chevilles qui enflent. Alors, envoûtant et captivant, assurément que leur musique tente à provoquer chez l'auditeur, je sais pas, parce que les boucles basse-batterie, rythmique enlevée, paroles répétées, encore, on a pu entendre dans le morceau qu'on vient d'écouter là, et encore, et des boucles. C'est très robotique. Alors, il y a quand même une guitare qui sous-tend ces rythmiques très répétitives. Et qui donne un peu un côté psyché à quelques morceaux. En tout cas, vous l'aurez compris, il faut aimer la répétition et espérer être captivé pour être envoûté par la musique de Nowso. On n'est pas très loin de Chicago, on pense de temps en temps comme boucle de Shellac qui pouvait produire mais avec beaucoup plus de talent. On n'est pas très loin non plus de Détroit et de sa techno froide et répétitive. Le groove en moins quand même. Alors je suis assez dur, mais je pense réaliste. Guillaume, tu le dis souvent, il y a tellement de choses qui sortent qu'on peut pas être clément face à la médiocrité. En tout cas, moi, j'ai trouvé cet album excessivement chiant. J'ai été peut-être emporté sur un morceau. Alors, je sais plus sur quelle critique avant de l'écouter. Hein, le mec disait c'est un morceau où on danse. J'ai absolument pas dansé sur cet album, mais c'est le morceau Panopticon qu'on va entendre juste après. Alors c'est peut-être la seule chose que je sauverais de cet album. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi c'est négatif.
On a bien compris le message. Grosse période quand même de revival de Eggpunk en ce moment. Depuis quelques années, on a déjà chroniqué quelques groupes ici dans l'émission. Guillaume, tu partages l'enthousiasme d'Arnaud ?
Ah, totalement. J'enfoncerai même encore plus fort le clou si est possible, car j'ai eu énormément de mal à écouter cet album. Tout d'abord, je le trouve mal produit. On entend trop les instruments par rapport au chant et particulièrement la batterie. Un son général de mauvaise qualité qui donne mal à la tête dans tous les morceaux. Cette mise en avant de la rythmique est embêtante, puisqu'elle est en fait l'élément capital de leur style musical. Donc effectivement, la filiation avec Devo s'impose d'elle-même. On reconnaît le côté justement très très rythmique de ce qu'ils font. Par contre, j'ai pas trop compris la référence à The Fall dont ils se font l'affiliation. Jamais Mark Smith ne se serait abaissé à déclamer sa morgue sur cette musique robotique et indigeste. L'insupportable morceau Club Music is the Soundtrack, avec son contretemps mélangé au son d'un synthétiseur biscornu, s'associe presque à de la torture pour moi. Quand bien même si musicalement l'album se révèle cohérent et pas mal joué, il faut se montrer capable de surmonter les sons qu'il génère. Personnellement, je n'ai plus écouté l'album d'une seule traite. J'ai dû l'interrompre pour écouter tout simplement autre chose. Le temps de Guillemette, bref, ce fut un calvaire.
Alors Nina, est-ce que tu vas sauver ce groupe ?
Je pense que oui. Ah. D'autant que les duos dans le rock, c'est des formats en général assez simples, bien qu'efficaces. Je pense évidemment aux White Stripes, mais aussi à Soft Play ou Teen Mortgage, qui sont des groupes que j'adore. Mais dans le cas de Nowso, cependant, la formule n'est pas si simple. Les compositions sont plutôt originales et permettent de mettre en place tout un imaginaire à la fois gothique et psychédélique, construit autour de riffs névrotiques dissonants qui tournent en boucle. Alors moi j'adore cet univers un peu horrifique, un peu burlesque, un peu gothique qui se prend pas au sérieux quoi. Et il y a aussi un sacré groove dans les morceaux de l'album. Moi perso ça m'a paru assez impossible d'écouter l'album sans remuer de la tête ou au moins taper du pied. En faisant mes recherches, je suis tombée sur une présentation de la musique du groupe qui disait qu'il s'agissait de véritables hymnes pour Club Goth. Et je trouve que c'est exactement ce qui définit Hypnotic Smack et Nowso. Et moi, ça me suffit pour me donner envie d'aller écouter toute la discographie du groupe.
Mathieu ?
Alors, moi, toutes ces références à morceaux dansants, les clubs gothiques, moi, ça me parle pas du tout. Moi, quand je donne l'impression de danser en écoutant ou en regardant un concert, c'est éventuellement mon petit doigt de pied droit qui bouge à l'intérieur de la doc. Ça va pas beaucoup plus loin. Éventuellement, j'ai mes rares cheveux qui ondulent, mais c'est sans doute qu'il y a quelqu'un qui souffle dessus. Vous me verrez pas onduler du popotin. Trêve de plaisanterie. Donc ce duo, quand même. Alors je suis surpris. Personne n'a noté que le batteur, c'était le batteur de Cloud Nothings, qui est quand même un groupe majeur de la scène actuelle. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les Cloud Nothings, mais justement, je trouve ça intéressant qu'il joue dans un tout autre registre. Alors vous l'avez dit, on entend beaucoup de connexions avec Divo. Tout le monde dit oui, c'est moi en fait. N'aimant pas Divo, j'y entends tout autre chose. Moi, j'y entends surtout des connexions avec les tout premiers albums de XTC, que ce soit dans l'intensité, dans les rythmes syncopés, et globalement c'est plutôt mon trip. Alors sur la durée, je peux comprendre que ça lasse un brin. Alors sur la durée, il y en a, c'est un demi morceau, mais en tout cas sur la grosse demi-heure de l'album, ça, effectivement, il peut y avoir un côté répétitif, mais pour moi ça reste très intéressant. Ça reste aussi très différent de l'habituel cam de Tata Poum, et pour ma part, j'adhère.
Match nul, on va dire, alors. Balle au centre. Et donc, on va écouter un deuxième titre de Knosso. Mathieu, tu passes un paquet de mouchoirs à Guillaume, s'il te plaît. C'est un deuxième titre que nous a choisi Arnaud, c'est Panopticon. Alors c'était Knosso, et on va changer radicalement de style, une fois encore, avec Unidad Ideológica, comme on dit, et leur album Choque Asimétrico. C'est un groupe qui nous vient de Bogota, on les trouve sur La Vida es un Mus, un grand label qu'on utilise largement dans l'émission, beaucoup de pépites sur ce label. Et on va tout de suite écouter un premier titre que Guillaume nous a choisi, c'est Weir. Et c'est Guillaume qui va nous le présenter. T'as trouvé des choses sur ce groupe ?
Absolument rien. Unidad Ideologica est une formation de punk hardcore originaire de Bogota, en Colombie donc, qui nous sort son deuxième album. Et comme je viens de le dire, pas grand-chose à vous dire sur les membres, hein, puisque seul le nom d'un d'entre eux m'est apparu, je sais plus où d'ailleurs. Et j'ai juste compris qu'ils étaient quatre musiciens dans la formation, puisqu'on les voit en live sur YouTube quand on tape leur nom, mais sinon il y a pratiquement rien d'autre, à moins en cherchant en espagnol, mais je ne lis pas l'espagnol sur l'internet, à trouver sur eux. En tous les cas, leurs deux albums sont sortis chez le label londonien La Vida es Mus Discos, tenu par Francisco Aranda, qui a des origines espagnoles, je crois, et donc qui, l'affiliation se fait d'elle-même, ce qui est déjà en soi un gage d'intérêt, puisque ce label nous est connu pour sortir les albums de Homefront que Mathieu vient d'aller voir, au même titre que d'autres groupes comme Shakti ou Strawman Army dans le catalogue de ce label. Leur premier remontait à 2021. Et il avait déjà marqué la critique à l'époque, puisqu'on y soulignait la force de la charge musicale possédée par le groupe, hein, j'ai pu lire. Et donc après l'avoir écouté, hein, ce premier album, il ne fait que 15 minutes, ça s'écoute vite aussi, je peux dire que le premier était plus punk, alors que celui-ci, ce dernier, évolue davantage vers des sons plus intenses encore, en s'approchant du noise, voire d'un certain métal. En effet, leur musique, comme ils le disent eux-mêmes, est avant tout du punk primitif. Mais y a pas à s'y tromper, c'est sûr. Ce côté raw punk, R-A-W, raw punk, comme on dit quand on veut se la péter, Mais avec de telles accentuations et une puissance de violence qu'elle en déborde le cadre habituel du style. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce disque. D'une part parce que l'ensemble est très bien exécuté, on ressent la colère et la violence dans chaque morceau. C'est puissant et ça dégage beaucoup d'énergie. Et il y a aussi beaucoup de souplesse dans le jeu des musiciens. Une modulation existe entre et dans les morceaux, malgré le côté brut de décoffrage de leur composition. Ça apporte beaucoup de valeur à leurs morceaux, mais plus encore, leur son lourd et massif dépasse les bases d'un punk brutal pour ouvrir vers une musique implacable et mordante. Et donc, ça déborde de partout et ça fait de ce Choquer Asymmétrico un très bon disque que j'ai beaucoup apprécié.
Mathieu, tu es aussi sensible ?
Alors moi je suis sensible à la perche que m'a tendue Guillaume en voulant parler de Homefront, parce que c'est vrai que je les ai vus sur scène. Alors Cédric, t'étais là aussi et je sais que tu seras pas d'accord avec moi, mais ouais, moi j'ai eu l'impression d'avoir...
Ah, on t'entend pas.
J'ai eu l'impression d'avoir un gros bol de soupe devant moi et donc je suis pas resté jusqu'au bout.
C'était formidable le concert.
Oui, c'est formidablement chiant. Voilà, mais on n'est pas parlé. On n'est pas là pour parler canadien, on est là pour parler colombien, enfin surtout pour parler hardcore, parce que quand on écoute cet album, que ce soit colombien ou n'importe quoi, ça reste du hardcore de série pour moi. C'est sans être vraiment désagréable, je dois avouer qu'à l'écoute de l'album, j'ai presque fini par oublier d'écouter. Il y a des moments où je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je suis en train d'écouter l'album, parce que j'étais en train de penser à autre chose, sans doute à des bons concerts, en me disant que j'aurais mieux fait d'aller voir autre chose que Homefront, mais bon, ça c'est...
Non, c'est pas grave. C'est pas du bruit pour se faire entendre.
Mais oui, mais justement, c'est du bruit qui passe comme un bruit de fond, c'est ça. Mais il faut dire que le son est quand même loin d'être optimal sur cet album. Je trouve que la qualité est quand même très très limite. Et voilà, en fait, cet album c'est gentillé, mais vraiment sans plus. Et je le réécouterai pas.
Et Nina, le hardcore?
Moi, le mois dernier, justement, quand on parlait d'Aya, j'ai dit que j'aimais bien comprendre ce qui se passe quand j'écoute de la musique. Et là, avec Unidad Ideologica, on est en plein dans le mille d'un des genres auxquels je comprends vraiment rien, le punk hardcore. Autant j'adore quand ça joue vite et fort, autant le hardcore, ça m'échappe complètement. Ce que j'ai apprécié le plus sur cet album, c'est les respirations, les pauses pendant les morceaux. Ce qui peut paraître ridicule, mais c'est vrai que les quelques secondes de répit, où par exemple la basse et la guitare jouent seules, ou où il y a un break de batterie qui interrompt brièvement le morceau, moi j'ai trouvé ça hyper efficace et ça m'a fait du bien. En fait, même si on n'est jamais à l'abri d'évoluer et de changer d'avis, je crois que j'aime vraiment pas le hardcore et c'est pas grave. Il y a tout un public qui adore ça, une scène qui a l'air foisonnante et c'est super. J'ai envie de dire que cet album plaira aux hardcoreux et hardcoreuses, mais c'est uniquement parce que j'ai rien compris et que ça sonne comme n'importe quel groupe du genre pour mes oreilles de non-initiés. En tout cas, j'irai pas les voir en concert pour vérifier.
Arnaud, tu vas laisser Guillaume seul?
Non, je suis totalement d'accord avec Nina, tu m'as flingué ce que j'ai écrit. Bon, parce que moi aussi j'ai trouvé les 9 interludes plutôt agréables en fait. Et à se demander si c'est quand même pas dans le silence qu'on perçoit le talent des groupes, parce que les 10 morceaux qui s'enchaînent m'ont paru vraiment pénibles. Alors comme toi, Nina, ça doit être le genre sûrement, le metal punk hardcore, ça me gonfle assez vite. Mais ça n'empêche quand même qu'on peut essayer d'enregistrer un album avec un peu de soin et pas de tout saloper à la truelle. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, c'est vraiment brouillon, c'est bouillesque. Ça, moi j'ai du mal à l'écoute et j'ai fait un effort là pendant qu'on écoutait le morceau là qui vient de passer juste avant, de discerner là les différents instruments. Alors on a doit parler avec les mêmes oreilles avec Guillaume, parce que je ne pourrais pas dire que c'est de qualité, parce que c'est quand même très fouillé et très brouillon. Je trouve que tout le son est écrasé par la guitare du groupe. Mais il y a peut-être un truc à sauver, c'est quand même l'effort qu'ils ont fait d'enregistrer les voix, parce qu'on les entend plutôt mieux que le reste. Du coup, pour moi, on n'entend pas grand-chose à part un bruit de fond derrière. Et ça semble être important parce que on en a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai pas cherché non plus à traduire ce qu'ils disent, mais ils semblent assez engagés. Ils ont quand même pas mal de choses à dire. Ils le hurlent. Et voilà, c'est peut-être il faudrait se pencher en silence. Ça serait peut-être bien sur la traduction des titres. Sinon, ça casse les oreilles.
Eh bien, on va encore se casser les oreilles une deuxième fois, puisque Guillaume nous a choisi un deuxième titre, c'est Collapso. On s'est décrassé les oreilles avec Unidad Ideológica. Puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, je voudrais simplement évoquer un label, c'est Black Square, qu'on trouve sur Bandcamp. Donc Square, c'est S-Q-U-A-R-E. Alors c'est un label important parce qu'il diffuse des groupes punk russes, des compilations de groupes punk russes, et l'ensemble des gains obtenus sur Bandcamp sont reversés à des assos de soutien à des prisonniers russes, notamment des opposants à la guerre. Mais aussi tout un groupe de six punks antifascistes qui ont été incarcérés en 2022, torturés en prison, qui ont dû avouer des faits qu'ils n'avaient pas commis. Tout ça est reversé à leurs avocats pour essayer de les soutenir. Bon, il y a plusieurs compilations, notamment une compilation qui s'appelle Sharp, Skinheads Against Russian President, une autre compilation ici sur les antifascistes prisonniers, etc. Là, on entend le groupe en fond, c'est Rasputin, dont le guitariste est emprisonné. Bref, allez sur ce site de Black Square que vous trouvez sur Bandcamp.
Yeah. Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Alors, c'était Tatapoum, épisode 69, où on a retrouvé toute l'équipe de Feignasse habituelle. Donc, il y avait Guillaume, Mathieu, Nina, Arnaud, et derrière les boutons, Marion et Bibi. À la semaine prochaine, portez-vous bien.